Voilà, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce beau temps chaud, qui va être encore plus chaud à nouveau ces prochains jours. Mais on se réjouit quand même d'être là ce matin, dans la présence du Seigneur. Voilà. Alors, j'ai un titre pour ce message, de zombies à zélés. De zombies à zélés. Et je vous propose de prendre vos Bibles et de lire quelques versets dans le chapitre 2 de la lettre de Paul aux Éphésiens. Chapitre 2 de la lettre de Paul aux Éphésiens, depuis le verset 1. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà, vous comprenez le titre de ce message, hein, de zombies à zélés. Parce que la condition humaine, eh bien, elle n'est pas très gaie. Malgré ce que l'on peut voir dans le monde de bon aussi, malgré tout, eh bien, on voit que l'homme est pécheur. Et pécheur est mort spirituellement. Un commentateur écossais disait que en fait, l'être humain non régénéré, c'est un mort qui marche. Donc, chers amis, nous étions tous morts. Nous sommes nés morts, spirituellement. C'est quand même assez fort, hein? Nous étions morts à cause de nos péchés et de nos offenses. C'est-à-dire que, en tant qu'être humain, on ne peut que rater la cible, qu'être à côté de la norme voulue par Dieu. C'est absolument pas possible de viser la cible en plein centre. C'est absolument pas possible de rester dans la norme que Dieu a établi. Même un homme qui est bon, ou une femme qui est bonne, qui est dévouée pour les autres, qui fait plein de bonnes choses, qui s'occupe des autres, des orphelins, qui prend soin des autres, etc., eh bien, c'est quelqu'un qui est de nature pécheresse. En fait, nous sommes pécheurs de nature, et c'est parce que nous sommes pécheurs que nous commettons des péchés. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas parce que nous commettons des péchés que nous devenons des pécheurs. Non. Au commencement, nous sommes pécheurs. Et de ce fait, eh bien, le monde va comme il va et nous allons comme nous allons. C'est nous avons besoin de salut de Dieu pour pouvoir changer. On a tous besoin, comme je disais, que la personne qui est bonne, qui essaye de faire le bien, parce qu'il y en a plein dans le monde, il y a plein de personnes qui sont encore beaucoup mieux que certains chrétiens, mais si je cherche à faire le bien, même si je fais le bien, je suis, mais que je ne suis pas converti, eh bien, j'ai autant besoin de salut qu'un terroriste, qu'un malfaiteur, qu'un brigand. C'est ça la réalité. Nous avons tous besoin du salut. Nous avons tous besoin de Jésus. Parce que la norme pour Dieu, c'est quoi ? C'est la perfection. Elle est là, la norme de Dieu. Il est parfait, il est saint, il est juste. Et, en passant quand même, ce n'est pas parce que Jésus est venu sur cette terre que la norme a changé. Dieu reste le même. On chante, hein, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Eh bien, la norme, elle est toujours là. Elle est toujours aussi élevée. Alors maintenant, eh bien, nous avons la possibilité, en étant en Jésus-Christ, de répondre à cette norme. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par ce que nous essayons de faire que nous le pouvons, mais c'est parce que nous sommes en Jésus. Donc, nous étions pécheurs. Voilà. Ce qui fait que nous avions une manière d'être au monde qui était dictée, on le voit, il y a trois éléments. Il y a le train de ce monde. Alors, qu'est-ce que c'est que le train de ce monde ? Ce n'est pas le TGV, mais c'est l'esprit du monde. C'est l'organisation, l'organisation du monde, l'humanisme, du monde, enfin tout ce qui est dans le monde, qui est du monde, eh bien c'est cela, nous nous conformons au monde et nous marchons dans le péché à cause de cela. La structure grammaticale qui est là derrière semble sous-entendre qu'on marche sur un sentier dont qu'on ne peut pas quitter. On ne peut pas s'écarter de ce sentier. On est prisonnier de ce sentier. Donc, on a beau faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas s'en écarter. On ne peut pas essayer de sortir de cet esprit du monde. Il y a, c'est en quelque sorte un itinéraire qui nous est imposé. Et c'est dans le dernier chant que nous avons chanté, eh bien, on dit qu'on veut être libre de nous-mêmes, c'est d'être libre, entre autres, de ce sentier qui nous est imposé par le monde. Et puis, il y a également, nous avons lu que nous sommes sous l'influence eh bien, du prince de l'air, du prince, du souverain de ce système du monde qui n'est autre que Satan. Nous sommes sous son influence. Qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, nous sommes sous l'influence de Satan. Parce que c'est lui qui aussi dirige ce monde, qui en est encore, qui est encore prince de ce monde. Donc nous sommes sous son influence. On se croit libre, On croit qu'on peut, qu'on fait ce qu'on veut, qu'on voilà, on appartient, on est libre, quoi. On est autonome. C'est moi qui décide de ma vie. Et puis, certaines personnes ne veulent pas venir à Dieu parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont perdre leur autonomie. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais pour gagner une autre liberté. Et puis, selon le troisième point aussi, c'est que nous marchons selon nos propres désirs, selon notre propre cœur. On dit souvent « écoute ce que dit ton cœur ». La Bible nous dit qu'il n'y a rien de plus menteur que le cœur. Donc, méfions-nous de notre cœur, méfions-nous de nos pensées, méfions-nous de nos pulsions, de ce qui nous attire. Parce que on marche comme ça, on avance comme ça, et puis le résultat, on le voit, ça peut être, ça sera une manière de marcher qui sera différente pour chacun. Il n'y a pas une manière de marcher. Chaque zombie avance de manière différente. Mais certains, on va chercher son propre intérêt au détriment de celui des autres. On écrase les autres parce qu'on veut absolument cette place de travail. On veut absolument avoir cette maison. On veut absolument avoir davantage d'argent. Voilà, par exemple, quelques exemples de nos désirs selon lesquels on marchait. Puis, on va se considérer comme étant seul au monde. C'est mes désirs qui comptent. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on a à faire des autres? Ils n'ont qu'à faire comme moi. Je suis le maître du monde. Et ceci me permet tout. Donc, il est dit que nous étions des enfants de colère, c'est-à-dire que nous étions en colère contre Dieu, rebelles contre Dieu, et que nous méritions tous une seule sentence, la mort. Il aurait pu se débarrasser de nous, Dieu. Il aurait pu dire, cette race humaine, à quoi bon faire quelque chose pour elle? De toute façon, elle s'est complètement pervertie, elle s'est éloignée de moi, elle n'a rien à faire de moi, eh bien, je vais m'en débarrasser. Il a voulu, par un certain moment, se débarrasser du peuple d'Israël qui était dans le désert et qui râlait contre lui. Et puis, il n'a pas fait. Et pour nous non plus. Il est bon de s'arrêter un peu, parfois, sur qui nous étions, sur ce que nous étions, de nous souvenir d'où nous venons, que nous n'avons strictement rien qui puisse plaire à Dieu. Rien du tout. On fait des bonnes choses, on fait des bonnes actions. Je n'en doute pas, mais on ne marche pas selon la norme de Dieu. Et de ce fait, Dieu ne peut pas nous accepter puisque Dieu est trois fois saint. On aime bien le dire, Dieu est saint, Dieu est trois fois saint. Mais ça veut dire que qu'est-ce que nous pouvons faire avec un Dieu qui est trois fois saint ? Il n'avait aucune raison de nous aimer, Dieu. Aucune. On n'est pas aimable. On croit qu'on est aimable. On est aimable, et puis on aide les autres, et puis on fait du bien aux autres, etc. Mais dans notre nature humaine, nous n'avons rien d'aimable qui puisse nous faire être aimés par Dieu. Dans qui nous sommes, dans ce que nous sommes. Strictement rien. Puisque On a saccagé ce qu'il a fait de nous. On a détruit, on détruit encore, on fait ce qu'on veut. Mais voilà que, coup de théâtre, Dieu a un amour immense. Il est amour et pour cela, il nous a rachetés. Waouh ! Dieu est riche en compassion, riche en bonté et il a un amour immense. Et c'est parce qu'il est amour, parce que c'est dans sa nature d'être amour qui nous a rendus vivants en Christ. Des zombies que nous étions, il a fait de nous des êtres vivants. Et, chose extraordinaire, il ne s'est pas contenté de faire de nous des êtres vivants, mais il est venu habiter en nous et il nous a établis avec lui dans les lieux célestes. Il ne nous a pas maintenus à la périphérie. Il dit « Ok, je vais te sauver, mais tu resteras quand même à distance. » Non, il a ouvert le ciel pour nous. Il nous a accueillis dans son royaume. Il nous a exfiltrés du royaume de la mort pour nous faire entrer dans son propre royaume. Ainsi, malgré ce que nous sommes, malgré que nous soyons détestables, que nous soyons insolents, que nous soyons méchants, eh bien, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Quelle que soit la manière avec laquelle tu te considères, quel que soit le regard que tu portes sur toi, eh bien, Dieu t'aime. Parce qu'il est amour. Et ainsi, il ne veut pas que nous restions privés de son amour. Il ne veut pas ça. Il sait bien que nous sommes incapables de lui plaire. Alors, arrêtons de vouloir lui plaire. De toute façon, on ne peut pas. Mais c'est Dieu qui nous aime. Et tout cela, c'est par sa grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que c'est un cadeau. Et un cadeau, eh bien, c'est gratuit. Il n'y a pas de contrepartie dans un cadeau. Des fois, on entend hein, des parents qui disent à leurs enfants quand ils sont énervés, « Si tu continues à être comme ça, tu n'auras pas de cadeau à Noël. » Peut-être même que vous l'avez dit, je ne sais pas. Mais ce n'est plus un cadeau. S'il doit le mériter. D'accord, un cadeau, ça ne se mérite pas. C'est Dieu, en l'occurrence, qui nous donne. Et puis nous, en tant que parents, ben, on aime nos enfants et puis on veut leur faire des cadeaux. Parce qu'on les aime, pas parce qu'ils obéissent. C'est des chenapans. C'est, ils sont tous terribles et puis nous fatiguent et puis on n'en peut plus. Et puis, on est fatigué, et puis ils ne font pas ce qu'on leur demande, ils ne rangent pas leur chambre, etc., etc. Mais on les aime. Et si on les aime, eh bien, on a envie de leur faire des cadeaux. Eh bien, Dieu, il est comme ça. Il nous aime. Il nous aime. J'ai essayé de trouver une illustration de ça, mais c'est compliqué. Je n'ai pas vraiment trouvé de bonne illustration de cet amour de Dieu pour un peuple qui ne l'aime pas, qui est contre lui. Je pensais à un homme très riche qui a une immense propriété qu'il entretient avec beaucoup, beaucoup de soin. Le gazon anglais qui coupe. Il y a plein de personnes qui travaillent pour lui, qui coupent le gazon avec des petits ciseaux pour qu'il soit, etc. Qui taille des haies absolument parfaites, qui a des massifs de fleurs magnifiques. Ouais, tout est beau, quoi. Tout est beau. C'est votre jardin. Et puis, voilà que... Puis il est immense. C'est un parc, en fait. C'est un parc énorme. Mais tout autour, il habite des personnes qui vont que embêter cet homme, qui vont détruire ses fleurs, qui vont marcher dans ses plates-bandes magnifiques, qui vont saccager son gazon, qui vont tailler ses arbres n'importe comment, qui vont se battre contre lui, qui essayent de lui casser la figure aussi au maître, à ses ouvriers. Ils leur font vraiment tout le mal qu'ils peuvent parce qu'ils ne supportent pas cet homme riche là et pourtant qui est gentil, qui est bon avec eux. Et voilà qu'un jour, eh bien, c'est comme si cet homme, eh bien, leur ouvre officiellement cette propriété et leur dit « Bienvenue, maintenant vous êtes chez vous ici. » Vous êtes chez vous. Et il ne se contente pas d'inviter les gens qui le saluaient toujours bien. « Ah, bonjour, monsieur le duc, monsieur le baron, comme vous avez une belle propriété, comme elle est magnifique. » Il les invite aussi, mais il invite tous les autres, tous ceux qui ont cherché à détruire ses récoltes, à brûler ce qu'il avait, à lui faire du mal, ceux qui l'ont attaqué aussi, qui lui ont tendu un guet-apens un soir parce qu'il ne supportait pas cet homme. Eh bien, il les invite tous et il leur dit « Vous êtes chez vous. » Ben, c'est ce que Dieu a fait pour nous, mais en 10 000 fois plus que ça, parce que ça a coûté un prix, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que c'est une image un peu choquante, hein, de se dire que ce riche homme a invité, il leur a dit « Entrez, vous pouvez aller à la cave, prendre les meilleures bouteilles, elles sont pour vous, il y en a bien suffisamment, vous pouvez, je vais vous cuisiner un plat extraordinaire, un cuisseau de chevreuil dont vous me direz des nouvelles. Venez, régalez-vous, mettez-vous à table. Waouh !» Alors que ces gens, 24 heures avant encore, ils cherchaient à détruire ce qu'il avait. C'est un côté choquant. Hein. En tout cas, moi, ça me choque. Eh bien, voilà, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Mais ça n'a pas été gratuite. Ça n'a pas été, on parle du salut qui est gratuit, bien sûr, mais un salut gratuit qui a coûté à Dieu son Fils, qui a été mis à mort, qui a été crucifié à cause de nos péchés. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint et qu'il ne supporte pas le péché. Alors, il ne peut pas dire simplement aux gens, « Mais venez, allez, venez de ma propriété. » Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour Dieu, parce qu'il est juste aussi. Il y a une justice, il y a l'amour à la justice, et c'est la raison pour laquelle Jésus a dû mourir sur cette croix pour nous. Ça a été des pleurs, ça a été de la souffrance, ça a été dur. Mais il a fait cela par amour pour nous, malgré que nous ne soyons absolument pas aimables. On trouve quelques paroles, très belles paroles qui expriment cet amour, cette grâce pour l'être humain perdu dans quelques cantiques, par exemple dans Amazing Grace. Grâce étonnante au son si doux, qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est la grâce qui m'a enseigné la crainte et la grâce a soulagé mes craintes. Combien précieuse cette grâce m'est apparue à l'heure où, pour la première fois, j'ai cru. Et puis, plus récemment, dans « Roi des rois » de Hillsong, nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père, pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour racheter la création, Tu n'as pas méprisé la croix en vue de la joie devant toi. Tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Donc nous sommes, par l'amour de Dieu, nous sommes sauvés. Il nous a rendus à la vie. Maintenant, nous sommes vivants. Amen. Nous sommes vivants. Et puis, il nous a fait asseoir en Jésus-Christ dans les lieux célestes, au-dessus de tous les pouvoirs, de toutes les principautés. On ne peut rien y faire à cela. C'est uniquement Dieu qui peut nous tirer de la situation mortelle dans laquelle nous étions. Et seule la grâce de Dieu nous donne cette position. Alors on comprend les versets de Romains 8, dans lesquels il est dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Hein? Ni plein de choses, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est clair que si nous nous éloignons de Jésus-Christ, ça va être un peu plus compliqué. Parce que c'est en Jésus-Christ que Dieu nous voit. Donc, théoriquement, notre vie de croyant d'aujourd'hui ne devrait plus rien avoir avec la vie d'autrefois. Vous êtes d'accord? Un être vivant ne vit pas comme un zombie. Hein? Ça, c'est quelque chose qui me travaille toujours. Je me dis, mais en quoi est-ce que ma vie a réellement changé depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ? À part aller à l'église, à part prier, à part aller à des réunions, qu'est-ce qui a changé réellement dans ma vie? Parce que il est dit que Dieu nous a recréés. Il nous a recréés. Il n'a pas fait de nous, il n'a pas réparé un peu notre être. Il n'a pas été, il ne s'est pas contenté de mettre un emplâtre, un pansement sur nos blessures, sur nos insatisfactions, sur notre colère. Ce n'est pas ça qu'il a fait. Absolument pas. Du reste, le baptême le montre bien, dans lequel il est dit que nous mourrons avec Jésus, nous entrons dans la mort avec lui et nous ressuscitons avec lui. Donc ça veut dire que nous sommes des nouvelles créatures, carrément. Ce n'est pas un rafistolage à bon marché. Ce n'est pas du tout ça. Nous sommes des nouvelles créatures. Des nouvelles créatures. Et pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Parce qu'il est amour, bien sûr. Mais ce n'est pas pour nos beaux yeux. Hein. On est à une époque où on ramène beaucoup les choses à nous-mêmes. Hein. Dieu m'aime, j'aime Dieu, etc. C'est pour montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est Dieu qui se glorifie. Dieu se glorifie en nous bénissant. C'est beau. Nous bénéficions des effets secondaires, si je puis dire, de Dieu qui se glorifie. Il nous bénit. Mais on n'a strictement rien, on n'a aucun mérite. Rien du tout. Même après, en tant que croyant, ça ne sert à rien de vouloir plaire à Dieu, encore une fois, par nos propres forces, mais c'est d'accepter la grâce que Dieu nous donne. De dire, « Ok, Seigneur, moi, je ne peux rien faire par mes forces, mais je sais que tu m'aimes malgré tout, que tu prends soin de moi. » et nous sommes créés. Alors, non pas pour s'installer sur notre canapé, même si c'est confortable, mais pour des œuvres que Dieu a préparées pour que nous les fassions. Alors vous allez me dire, ok, c'est quoi cette affaire? On n'est pas sauvé par les œuvres, c'est par la grâce, mais on doit faire des œuvres. Eh bien oui, eh bien oui. Reprenons depuis le début. Nous avons encore tout le temps. Vous n'avez pas trop chaud? Bon, alors, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'est juste, nous ne pouvons strictement rien faire, même si nous faisons tout le bien possible, si nous sacrifions notre vie pour aider des personnes, eh bien, si nous ne sommes pas des nouvelles créatures en Jésus-Christ, cela ne va pas nous sauver. Mais, ensuite, Dieu nous a transformés. Dieu a transformé nos pensées. Dieu a transformé notre manière d'être, de vivre. Et cela pour que nous puissions montrer sa gloire, donc que nous puissions faire, réaliser les œuvres qu'il a préparées. Et comme Paul et Jacques l'expriment bien, la foi sans les œuvres est morte. Ça ne sert à rien de dire « j'ai la foi, merci Seigneur ». Merci pour la foi que tu me donnes dans telle, telle chose. Mais la foi sans les œuvres est morte. Alors, on ne va pas non plus se prendre la tête, je n'aimerais pas ça, surtout qu'il fait chaud en plus, se dire, mais c'est quoi ces œuvres? Est-ce que je fais les œuvres que Dieu me demande? Mais que nous puissions réfléchir, nous dire, c'est vrai, j'étais un mort vivant. Aujourd'hui, je suis vivant, même faible. Comment est-ce que cette vie se manifeste pour les autres autour de moi? Donc les œuvres ne sont pas le résultat, ne sont pas, pardon, le mécanisme du salut, mais c'est le résultat. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui font le disciple, mais elles prouvent que la personne est un disciple. Alors ce matin, eh bien, il y a peut-être des personnes qui sont encore zombies. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de réaliser que l'on est des zombies. C'est ça qui est important. Si je réalise et que je comprends que je suis zombie, alors je peux répondre à l'appel de Dieu pour moi ce matin pour devenir une créature vivante. Et puis, il y a peut-être des personnes aussi qui ont l'impression peut-être d'être entre deux chaises, à moitié zombie, à moitié vivant. Dans les faits, ce n'est pas tellement possible, mais dans nos vies humaines, ben oui. En tout cas, si je regarde à moi, eh bien, je confesse qu'il y a des moments où je suis zombie et d'autres où je suis vivant. Et je pense que si l'on est honnête avec soi-même, c'est le cas. On n'a peut-être pas l'impression que notre vie a vraiment changé depuis que Dieu nous a appelés, qu'on a répondu à son appel. Ou bien il y a des éléments de notre vie passée que l'on trouve tellement géniaux, tellement. Ah, on était bons là. Ah, Dieu, alors il nous a bénis dans cette vie passée. Et puis, ben, on veut garder ça. Alors que Dieu, peut-être, veut nous donner autre chose à faire. Eh bien, là aussi, eh bien, nous pouvons prendre la décision de, même si on se sent plein de doutes, prendre la décision de dire oui, je veux vivre selon le plan de Dieu pour ma vie. Il y a un verset d'un chant tel que je suis, la deuxième strophe qui dit « Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. » Alors que ça puisse être notre prière, parce que Dieu, il nous connaît, il n'est pas en train de nous dire « Waouh, pas bien ce que tu fais, il faut te décider. » Non, il sait que nous sommes vacillants, il sait que nous avons des doutes. Il sait qu'il y a des épreuves dans la vie. Tout ça, il le sait. Ce qu'il veut, ce n'est pas qu'on nie et qu'on néglige tout ça, mais c'est que l'on puisse dire, agneau de Dieu, je viens, je viens. Seigneur, merci. Merci parce que nous n'avions rien qui puisse nous faire aimer. Nous n'avions rien d'aimable en nous. Tu nous le dis dans ta parole. Et puis, tu es mort pour nous. Tu nous as fait revivre, tu nous as recréés, tu as fait de nous des êtres nouveaux, des êtres neufs pour manifester ta gloire et pas la nôtre. Alors Seigneur, ce matin, eh bien, je te prie que s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore comme Seigneur, comme Sauveur et Seigneur, eh bien, elles puissent s'approcher de toi, qu'elles puissent s'approcher de toi dans la prière, maintenant. Qu'elle puisse, et que les autres qui sont peut-être entre deux, eh bien, Seigneur, puissent dire, c'est vrai que je tremble, mais je veux venir vers toi, agneau de Dieu. Merci de toucher nos vies encore, de toucher nos cœurs. Nous avons tous besoin de cela. Et toi, tu agis avec douceur, avec tendresse, avec amour, parce que ton amour est illimité. Alors, béni sois-tu encore, Seigneur, ce matin, ici, dans cette salle, dans nos vies aux uns et aux autres. Amen.